vivante église.
Du lundi au vendredi de 9h à 10h.
Rediffusion 21h.
Un magazine présenté par Emmanuel Pellat.
Présence.
Radio Présence, 15h. De passage à Lourdes.
Père Jean-Yves Ducournau, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes prêtre, aumônier militaire, baroudeur, auteur, lazariste. J'arrête là parce que nous allons découvrir votre parcours de prêtre. Alors, si nous devions nous demander, mais pourquoi le père Jean-Yves Ducournau, qui est lazariste, est devenu aumônier militaire? Quel est le lien entre cette spiritualité de Vincent de Paul et puis, le monde militaire, il y en a un d'ailleurs?
Il y en a un, parce que Saint-Vincent de Paul était un homme qui était ouvert sur son temps et qui cherchait à vivre sa spiritualité auprès des plus pauvres. La pauvreté, ce n'est pas quelque chose que l'on voit forcément. Bien sûr, il y a tous ceux que l'on rencontre dans la rue et puis dans des situations difficiles. Mais bien souvent aussi, derrière l'uniforme, il y a des pauvretés cachées qui peuvent être parfois fatales. Et la spiritualité lazariste retrouve bien cette spiritualité militaire, de fait, de service, de sacrifice de l'autre, de don de soi. Et l'origine de cette présence des lazaristes auprès des armées remonte à 1636, la bataille historique de Corbie. Louis XIII, se sentant menacé dans son royaume, a demandé à Saint-Vincent de Paul de lui prêter quelques prêtres, et Saint-Vincent, venant de créer sa congrégation, n'avait pas tous les moyens disponibles. Donc il a envoyé une dizaine de prêtres qui sont devenus finalement aumôniers militaires, plus pour motiver les troupes et confesser que avoir une présence enfouie permanente. Voilà. Et puis depuis, il y a eu toujours des prêtres de mes confrères lazaristes, donc au sein des armées jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes deux en présence donc au sein des armées en tant que lazariste.
Puisque nous parlons de Vincent de Paul, on vous doit ce petit traité spirituel, La charité inventive, paru chez EDB, où vous vous immergez dans la spiritualité de Saint Vincent, et c'est normal pour un lazariste, et vous nous proposez cette immersion aussi. Si vous aviez à mettre en exergue, en valeur, un peu ce qui est singulier chez ce saint incroyable Vincent de Paul, qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez lui? Qu'est-ce qu'il y a de moderne?
Alors, je pense qu'il est très moderne comme homme, puisque c'est un grand organisateur. Je dis souvent que Saint Vincent n'a rien créé, il a organisé ou l'a réorganisé. Il a observé ce qui se faisait à droite à gauche, et puis il a fédéré tout cela et il a recréé en quelque sorte sur ce quelque chose qui existait déjà, comme il disait lui-même, sans enjamber sur la providence, toujours la grâce de Dieu aidant, mais toujours en vouloir en faisant davantage, c'est-à-dire qu'on n'en fait jamais assez pour les pauvres. Et donc c'est pour ça, en ce sens, que la charité est toujours inventive. Elle doit toujours se confronter aux nouvelles pauvretés, à ce que l'on rencontre. Voilà, il ne faut pas que la charité soit figée.
C'est en 1617 que les équipes Saint-Vincent de Paul se créent, oui. Justement grâce à l'action de Vincent de Paul. Et vous, c'est pour rendre hommage à ces équipes qui œuvrent depuis des centaines d'années auprès des plus pauvres que vous écrivez ce petit traité?
Effectivement, parce que pour rendre hommage à ces femmes qui ont parfois donné beaucoup plus que leurs moyens, mais aussi leur vie, pour servir les pauvres, de tout temps, et elles venant de tout lieu, et puis étant confrontées aux grandes misères de différentes époques. Et Saint-Vincent, justement, n'a pas eu peur d'aller les trouver, d'aller leur demander soutien, etc., et puis d'aller les motiver en leur faisant penser que, effectivement, la fraternité humaine n'a de sens que si elle est charitable. Et elle est charitable dans tous les domaines. Et avoir le cœur et les yeux ouverts sur les pauvres, c'est aussi mettre en œuvre cette charité. Mais pour cela encore, il fallait fédérer, il fallait donner une visibilité, un statut. Et donc, ces dames de la charité sont devenues, après les équipes Saint-Vincent, maintenant l'Association internationale des équipes Saint-Vincent. Donc, c'est effectivement une œuvre caritative internationale qui continue à œuvrer souvent dans l'ombre, dans la discrétion, mais dans l'efficacité certaine.
Ce mot charité est donc très ancien et il est parfois mal compris, mal reçu. Il peut être même caricaturé. Mmh. Qu'est-ce que vous diriez de la différence entre la charité, la justice, ceux qui se disent profondément empreints d'humanisme Voilà, il y a tout ça, toutes ces réalités, on les côtoie.
Alors effectivement, le thème de mon livre, c'était aussi de revenir sur les divers mots qui semblent effacer le mot de charité. On parle de solidarité, de fraternité, de partage, de justice, que sais-je encore. Mais tout cela n'a de sens que, effectivement, pour construire une société. Et ça, c'est humain, et c'est normal, et c'est beau. Et la charité donne du sens à tout cela. Quand Saint-Vincent de Paul disait « faire la charité », c'était effectivement mettre l'évangile en acte, c'est-à-dire laisser passer Dieu par soi. C'est pourquoi, quand il a fondé les filles de la charité, il ne voulait pas les appeler filles de la charité, il voulait les appeler filles de la providence. Mais ce sont les pauvres eux-mêmes qui ont vu à travers ces jeunes filles, ces jeunes femmes, le service de la charité de Dieu, qui les ont appelées ainsi. Et filles de la charité étant Dieu, Dieu est charité, elles sont filles de Dieu. Et donc, quand on fait la charité, c'est-à-dire qu'on met en œuvre l'évangile, on est aussi charité, et on permet de laisser passer Dieu, puisque dans l'évangile, il nous est dit que nous sommes des outils non pas inutiles, mais quelconques. Et donc, nous laissons à travers, nous sommes dans les mains de Dieu. Dieu, c'est lui qui nous emploie, qui nous envoie, et nous ne faisons pas obstacle en servant la charité de nos mains, de notre cœur. Voilà. Et c'est pourquoi la charité a besoin de solidarité, de justice, de partage, de fraternité, qui sont des valeurs sociales, sociétales, qui construisent l'humanité, qui construisent la fraternité. Elles sont nécessaires. Mais la charité donne du sens à tout ça. Voilà. Parce qu'elle elle nous permet de nous tourner vers Dieu, ce qui est l'origine de tout.
La charité inventive, c'est le titre de cet ouvrage paru chez EDB et que l'on vous doit, Père Jean-Yves Ducournau. Justement, vous disiez, nous sommes tous dans la main de Dieu, vous-même. Vous avez été élevé dans le village de Saint-Vincent-de-Paul.
Oui, j'ai...
C'est le nom du village.
C'est le nom du village.
Vous êtes landais.
Je suis landais, voilà, avec un caractère de gascon, comme... voilà.
Alors, on se dit, il est devenu lazariste, c'est presque une évidence.
Ça n'était pas tellement une évidence, puisque lorsque j'étais effectivement à 6 ans en pension à l'école, à l'époque qui sortait du statut d'orphelinat, mais qu'il y avait encore des enfants orphelins ou sans famille, ou délaissés de leur famille, j'en faisais partie, et donc j'ai été mis là dans tout le cursus élémentaire, enfin primaire et élémentaire. Et puis ensuite, bon, les sœurs qui étaient là, les pères et mon institutrice pensaient que logiquement j'allais suivre le petit séminaire et après le grand séminaire, voilà. Mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que bon, mes parents ont jugé mieux de me sortir de cet endroit pour me mettre ailleurs. Voilà, et donc je suis revenu finalement au noviciat, au séminaire de chez nous, qui était effectivement au berceau de Saint-Vincent-de-Paul, 20 ans après. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit « Dieu écrit droit avec des lignes courbes ».
Vous-même, vous n'avez pas été élevé par votre famille, par vos parents?
Voilà, j'ai été élevé de pension en pension, de pension de famille en pension de famille, parce que bon, je n'étais pas un enfant désiré. Dès ma naissance, je n'étais pas l'enfant choisi, c'est-à-dire que ma mère ne voulait qu'une fille. Elle a eu 3 garçons, je suis le 3e garçon. Après, il y a eu une fille, heureusement pour elle. Sachant qu'elle elle attendait un garçon, elle m'a rejeté dès la naissance, même avant d'ailleurs. Et puis voilà. Et donc j'ai été élevé chez une nourrice pendant 3 ans. Puis après, j'étais gravement malade. Donc et ensuite, j'ai été élevé de pension en famille, en pension en famille, et de pension tout court, en pension tout court.
Voilà. Dès cette époque-là, le petit Jean-Yves sent qu'il est délaissé, il est laissé pour compte.
Oui, mais j'ai toujours eu la grâce de rencontrer ce que j'appelle dans le livre que j'ai écrit sur cet itinéraire, qui s'appelle Mal de mer, des balises de lumière, c'est-à-dire des personnes qui ont évité que je tombe, voilà, qui m'ont relevé. Bon, là, j'ai eu cette chance par rapport à certains enfants qui n'ont pas cette chance et pour lesquels je ne cesse de prier. Et puis j'ai écrit ce livre exprès pour eux. Moi, j'ai eu cette chance donc d'avoir ces personnes. Bon, ça n'a pas été. J'ai eu d'autres personnes aussi qui m'ont fait mal. Mais les personnes qui m'ont fait du bien, je les ai senties beaucoup plus fortes, beaucoup plus présentes. Et je me suis tourné davantage vers elles que vers celles qui auraient pu et qui m'ont fait du mal.
Donc c'est grâce à cela que vous vous construisez au fond et que vous êtes devenu ce que vous êtes.
Mais je pense que je suis à Lourdes ici, je pense qu'il y en a une qui m'a aidé, effectivement, c'est Marie. Parce qu'il paraît que dès l'âge dès que j'étais au berceau de Saint-Vincent-de-Paul, une sœur m'a donné un chapelet, je ne le quittais jamais. Moi, je ne me rappelle plus, on me l'a dit après. Et c'est vrai que Lourdes fut pour moi un lieu important. Je suis venu avec le berceau de Saint-Vincent-de-Paul. J'y suis revenu quelques temps après, lorsque j'ai fait une fugue, de 4-5 jours, même plus que ça. Voilà, et j'ai atterri au pied de la Vierge Marie à Lourdes, grâce à une sœur dominicaine qui a rejoint le ciel maintenant, qui était au monastère des Dominicaines ici. Parce que je frappe au monastère et je leur demande un peu de pain, parce que bon.
Vous avez quel âge à ce moment-là?
J'avais 17 ans. Ouais. Et la sœur me dit vous n'êtes pas un pèlerin comme un autre. Je lui dis non, effectivement. Donc bon, et puis elle m'a fait comprendre que ce serait bien que je me calme, je me repose. Et puis alors moi je lui ai dit, je prenais ma décision d'avertir la gendarmerie que j'étais là, etc. Et d'avertir mes parents, enfin mon père qui me recherchait, pas ma mère, mais mon père me recherchait, parce que la gendarmerie était venue chez lui, etc. Donc bon. Donc j'ai dit, je veux d'abord aller à la grotte, voilà. Et je suis donc allé à la grotte et j'ai demandé conseil à la Vierge Marie. Voilà. Mais elle m'a toujours suivi, voilà.
Et qu'est-ce qu'elle vous a conseillé de prier?
Eh ben, elle m'a conseillé de garder l'espérance dans le cœur, oui. Voilà, qu'elle était ma maman. Voilà, j'ai toujours, de toute façon, tous les livres que j'ai pu écrire sont dédiés à Marie, parce que sans elle, je crois que je ne serais rien.
Vous êtes justement à Lourdes avec quelques 87
oui.
jeunes
oui.
qui sont
oui.
des militaires ou qui sont en cours de formation en tout cas.
Ah, ce sont des jeunes élèves, oui.
Puisque je ne l'ai pas dit, mais vous êtes aumônier de Saint-Mexant-l'École.
Voilà.
Cette ouais. grande école de formation oui. des sous-officiers, école interarmée.
Non, armée de terre.
Armée de terre.
Armée de terre. Mais oui. il y a toutes les armes, puisque
les
jeunes font d'abord le cursus obligatoire, certificat militaire de premier degré, et après ils choisissent.
Ouais. Donc vous étiez justement encore avec eux au chemin de croix,
oui,
il y a quelques minutes,
voilà.
dans ce chemin de croix sur la montagne, que oui. vous avez médité avec eux.
Oui.
Nous allons nous arrêter quelques instants, si vous le voulez bien, Père Jean-Yves Ducournau, puis juste après nous continuons à parler avec vous de votre parcours, mais également de ce que vous faites comme prêtre au milieu des militaires. A tout de suite.
Présence. Chaque semaine, dans « Et Dieu dans tout ça », James Combépine nous propose de partir à la rencontre d'une personne, qu'elle soit croyante ou incroyante, pour aborder ensemble son rapport à l'homme, à la vie, à la spiritualité et à Dieu. Et Dieu dans tout ça,
tous les dimanches à midi.
De passage à Lourdes.
Notre invité aujourd'hui, c'est le padré Jean-Yves Ducournau. C'est comme ça qu'on appelle
ça, le
les prêtres
oui,
dans l'armée.
Oui. Oui, ça vient de la Légion étrangère.
Ah bon? Nous ne l'avons pas encore dit, mais avant d'être prêtre, vous avez été militaire.
Oui, oui. J'étais sous-officier moi-même, oui.
Oui. Alors, je redis qu'on vous doit le dernier livre, c'est le 9e.
Oui, je crois. 9e,
10e, la charité enfin, inventive, oui. puisque vous êtes lazariste, vous avez évidemment voulu écrire sur Saint-Vincent-de-Paul, oui. et en particulier à l'occasion de l'anniversaire de la fondation des équipes Saint-Vincent-de-Paul, qui ont été fondées en 1617.
1617. Ouais.
La charité inventive parue chez EDB. Mais on vous doit d'autres ouvrages qui racontent votre vie, votre parcours. Bon, vous nous avez fait état de quelques éléments de votre parcours difficile. Cet enfant rejeté, non voulu par sa maman, etc. Et vous nous disiez juste avant la pause combien Lourdes a été important. Ce lieu a été important pour vous.
Oui.
Comment se peut-il que ce lieu banal, entre guillemets, la grotte, pas un abri sous roche... voilà, ou une petite bergère, une pauvresse en tout cas, reçoit des messages d'une belle dame,
oui,
puisse avoir un tel destin et rejoindre autant le cœur des hommes. C'est étonnant, non ?
C'est étonnant de simplicité.
Ah.
C'est-à-dire que bon, voilà, cette petite Bernadette, qui ne savait lire ni écrire ou à peine, bon, était simple. Je ne dirais pas qu'elle était naïve. La simplicité, pour Saint Vincent de Paul, c'est le contraire de la duplicité. C'est-à-dire qu'elle n'était pas divisée en elle-même. Voilà. Elle était, sans même avoir des cours de, avoir des formations de théologie, machin, elle connaissait que deux ou trois prières. Donc voilà, c'est ça. Cette simplicité d'âme, cette simplicité du cœur qui fait que elle ne peut être ouverte qu'au message de la grâce de Dieu. Voilà, par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Et bon, ça ne l'a pas choquée ni bouleversée. Finalement, son âme était prête à recevoir ce message. Voilà. Et je pense que c'est ce message-là, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit au chemin de croix. J'ai dit, bon, j'ai appelé ces jeunes à beaucoup plus de simplicité, de se désencombrer de tout ce qui gêne, voilà, pour entendre le message de Dieu, qui est un message simple, un message d'amour. Il ne s'agit pas d'avoir des cours de théologie, d'avoir des licences de philo, etc. Non, voilà. Entendre ce message d'amour. Voilà. Dieu est amour, Dieu t'aime, point.
Vous avez mis du temps à comprendre cela ?
Oui, parce que...
Quel parcours, parce que...
Oui, oui.
Mais avant d'être prêtre et aumônier, ouais, hein, vous en avez...
Parce qu'effectivement, c'est par l'amour des parents que l'on peut aimer.
Oui.
C'est-à-dire que l'amour n'est pas inné chez l'homme. On le reçoit. C'est-à-dire qu'on prend acte de l'amour des parents, et à partir de là, on peut aimer en retour les parents.
Pour ceux qui n'ont pas de parents,
oui,
ou
ben
qui
voilà,
ne les ont pas eus.
C'est pour ça la difficulté des gens, la difficulté des enfants à aimer quand ils n'ont pas été aimés. L'amour, d'abord, c'est quelque chose qui se reçoit, voilà, parce qu'il se donne. Voilà. Une mère qui n'ouvre pas ses bras à son enfant, l'enfant ne peut pas aimer parce qu'il ne sait pas ce qu'est l'amour. Voilà. La source de l'amour, c'est Dieu. C'est parce que Dieu aime d'abord que nous pouvons aimer. C'est parce que Dieu est amour que nous, en retour, nous pouvons aimer, pas l'inverse. Voilà. Nous comprenons l'amour que nous devons aux uns et aux autres en comprenant l'amour de Dieu qui nous aime d'abord. Mais cet amour n'est pas forcément facile à comprendre parce que nous-mêmes, parfois, nous ne nous aimons pas parce que nous n'avons pas été aimés.
On est encombré, ce que vous disiez.
On est encombré parce que, bon, pourquoi on se demande, mais pourquoi ne suis-je pas aimé ? Pourquoi personne ne m'aime ? Pourquoi ma mère ne m'aime pas ? Pourquoi mon père ne m'aime pas ? Pourquoi on me rejette ? Pourquoi on me frappe ? Et donc on se dit, bah, finalement, j'ai fait quelque chose de mal. Je suis quelqu'un de mal. Et donc là, ça, effectivement, c'est... et ça, on ne peut pas se désencombrer de ça sans justement ces balises de lumière qui nous font cheminer. C'est pas pour rien si Jésus nous dit qu'il est le chemin. Parce que c'est long d'apprendre à aimer.
Père Jean-Yves Ducournau, lorsque vous découvrez l'amour de Dieu, vous devenez prêtre.
Mm-hmm.
Vous avez été militaire, on l'a dit.
Oui.
Vous êtes aumônier en prison, aumônier des gens de la rue. C'est pour ça que vous allez vers ces gens en souffrance et en fragilité.
Peut-être que, je ne dis pas que c'est facile, mais en rapport effectivement à ce que j'ai vécu, je me sens peut-être, j'ai peut-être moins d'obstacles à aller vers ces gens. Mais pour autant, ces frères, bon, il n'est pas question que je fasse fusion avec eux. Ils ont leur histoire est sacrée, leur histoire est sainte, la mienne aussi, voilà. Mais il y a deux histoires, voilà. Donc je ne suis pas comme eux, je suis avec eux. Donc c'est pour ça que je fais très attention à ne pas faire fusion pour ne pas confondre les histoires. Chacun a une histoire sacrée. Seul Dieu peut prendre la place du pauvre. Moi je ne peux que l'accompagner. Je peux que lui montrer que Dieu est avec lui, voilà. Mais je ne suis pas lui, je ne suis pas son histoire, je ne peux pas prendre sa place. Je ne peux pas prendre la place d'un blessé qui a perdu une jambe au combat, je ne peux pas prendre la place d'un enfant qui est sur un lit d'hôpital, je ne peux prendre la place de personne. Mais je peux lui tendre la main, je peux, avec mon silence ou mes mots, je peux être là, voilà, assurer cette présence et lui dire qu'au-delà de la souffrance, ou même dans la souffrance, parce que c'est pas au-delà, c'est dans la souffrance, il y a quelqu'un qui t'aime. Voilà. Et ça, c'est mon rôle, c'est ma mission de prêtre. Et c'est ma mission d'homme, tout simplement, parce que voilà, c'est la mission de frère en humanité.
Depuis une vingtaine d'années, vous êtes aumônier militaire.
Oui.
Et là, vous êtes en mission auprès des jeunes,
oui,
qui sont à l'école, à Saint-Mexant-l'École, voilà, qui vont devenir sous-officiers.
Bah, s'ils réussissent, oui.
S'ils réussissent.
Normalement, bon. Oui.
Vous-même, enfin, nos auditeurs ne peuvent pas vous voir. Vous êtes sportif, gaillard.
Oui, il reste quelque chose.
Oui. Bon. Qu'est-ce que vous diriez de cette mission aujourd'hui d'aumônier militaire ? C'est pas toujours évident d'expliquer ce que fait un prêtre au milieu de gens d'armes.
Non, ce n'est pas évident, parce qu'on peut se poser la question, mais voilà, tu accompagnes des hommes qui ont une arme et qui vont tuer. Ben voilà. Oui. Alors je leur dis déjà, bon, enfin, même si ça a changé aujourd'hui, on est reparti au ministère de la guerre, mais jusqu'à récemment, ça s'appelait le ministère de la défense, non pas le ministère de l'attaque. Donc, et Monseigneur Dubost, qui était ancien évêque aux armées, aurait voulu que ça s'appelle le ministère de la paix. Et là, pour ça, je lui donne raison. Pourquoi ? Parce que, ces soldats ne sont pas des assassins, ne sont pas des meurtriers. Ils sont envoyés pour une mission... pour défendre les plus pauvres. Quand j'étais en Afghanistan notamment, c'était ça. On allait dans les villages, on avait des gens qui étaient prisonniers des ennemis. Et donc notre mission était vraiment de permettre à ces gens de vivre.
Les cloches sonnent aussi à Kaboul.
C'est un peu ça, oui.
C'est le livre qui raconte cette expérience.
C'est ça, oui. Entre autres, et puis aussi le fondement de pourquoi justement des prêtres accompagnent des soldats. Enfin, c'est des questions parce que j'avais même dans ma congrégation des gens. Oh, mais c'est qu'est-ce que tu fous au milieu de ces gens qui portent des armes. Alors je leur ai rappelé quand même que derrière l'uniforme il y a des hommes, des femmes, qui ont une histoire et qui ont une pauvreté et qui ont une mission, voilà, et qui ont une vocation. Voilà. C'est-à-dire qu'il se trouve que le vocabulaire militaire ressemble étrangement au vocabulaire religieux. On parle de sacrifice, de don de soi, de mission, d'abnégation, etc. Bon, voilà. Et quand j'étais aumônier à la Légion, je leur disais aux jeunes, parce qu'en fait, ils avaient un contrat de 5 ans, donc je lui dis, t'es comme dans un noviciat, tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à l'adjudant d'unité, voilà, qui est ton père, pour ce moment-là, et tu l'obéis, vous doyez à l'œil, en quelque sorte. Voilà, tu n'as pas le droit d'acheter un vélo, tu n'as pas le droit, voilà, etc., etc., bon. Et c'est vrai qu'il y a un peu de similitude, voilà, et de don de soi, voilà. Et de dépassement de soi, voilà, jusqu'au sacrifice suprême, qui est de donner sa vie pour que les autres puissent vivre. Voilà. Et si nous sommes aujourd'hui dans un pays libre, c'est parce que d'autres, nos anciens, ont donné leur vie, que ce soit dans tous les conflits mondiaux, voilà. Et aujourd'hui encore, ceux qui meurent en Afghanistan ou au Mali sont morts pour la France, parce qu'effectivement, ils empêchent le terrorisme fondamentaliste de se répandre, voilà. Ils sont capables de donner leur vie, même si géographiquement ils ne sont pas en France, ils sont morts pour la France, voilà.
Le prêtre que vous êtes baptise, oui. Délivre les sacrements.
Alors oui, je...
Quel est votre vie de prêtre ?
C'est-à-dire que c'est...
Vous ne faites pas que du sport, père.
Non, je ne fais pas que du sport.
Que de la muscu et de la course.
Je fais du sport spirituel parce que je prie et c'est aussi une notion de sport parce que des fois, il faut se dominer, non pas que la prière soit un acte difficile, mais c'est vrai que c'est un ministère un peu de prêtre isolé. Et dans mon livre Les cloches sonnent aussi à Kaboul, je dis qu'un aumônier isolé est un aumônier en danger. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous de construire une communauté. Donc moi j'ai la chance d'avoir une très bonne entente avec les prêtres diocésains sur les territoires desquels je suis régulièrement. Et il y a une communauté aussi. Bon, moi j'ai la communauté lazariste qui me soutient, mais chaque fois que je partais en opération extérieure, ce qu'on appelle les OPEX, j'allais à l'abbaye de Maylis dans l'Islande, parce que je demandais aux moines de nous porter, de porter la mission dans la prière, voilà, pour ne pas être seul, pour être plus fort aussi, parce que je suis confronté aux mêmes haines, aux mêmes morts que mes jeunes soldats. Mais la vie d'un prêtre, d'abord, c'est une vie de prière. Je prie pour tous ceux qui me sont confiés dans le ministère de l'Église, c'est ma première mission. Voilà. Donc, j'essaie d'avoir une chapelle belle, parce que c'est important d'avoir un lieu qui ne ressemble à aucun autre, et la chapelle, c'est le cas. Donc j'ai voulu mettre sur les murs de la chapelle les saints patrons de tous les corps d'armée, pour montrer qu'il y a... on n'est pas tout seul, on est accompagné, voilà. Et puis, la chapelle est toujours ouverte, Il y a les permanents qui sont là aussi avec les familles, donc lors des messes de garnison, c'est-à-dire des messes une fois par mois, il y a une messe de garnison, où là, effectivement, je rassemble les familles qui présentent des enfants au baptême, et aussi quand il y a les appels décisifs, les catéchuménats, etc. Là, j'ai un caporal-chef donc qui va recevoir la communion demain, qui a 42 ans, hein. Voilà, il a cheminé ensemble, on a travaillé, il a fait le catéchuménat, il a été baptisé tout petit, comme beaucoup, et puis après, poup, hein, on a fait sa vie, on a oublié Dieu, puis on le retrouve. À la faveur d'autres aussi, parce que son parrain, c'est un caporal-chef qui a été baptisé il y a 2 ans. Baptisé, communié, confirmé, il y a 2 ans. Donc, il a fait son rôle de parrain, vraiment, voilà. Donc, et du coup, ouais, il y a aussi, c'est ça, la présence de foi. Et bon, je vais sur le terrain. Quand il y a des messes, quand les jeunes vont sur le terrain le dimanche, ben, j'y suis aussi. Je leur dis la messe à 7h du matin le dimanche. Voilà, ils sont réveillés depuis de bonne heure. ils dorment dehors, donc ils font pas la grâce matinée de toute manière. Et puis voilà, j'ai les messes aussi pour eux, mais aussi une présence. Mon rôle aussi d'un aumônier d'État, parce que je suis au sein d'une aumônerie reconnue par l'État, et il y a 3 aumôneries d'État, les aumôneries d'hôpitaux, les aumôneries des armées et les aumôneries des prisons, partout où la mort, où la souffrance, etc. est bien présente, et aussi partout où il est parfois difficile de vivre le culte à l'extérieur. Voilà, donc notre rôle, c'est ça aussi. Donc notre rôle premier, c'est effectivement d'être présence d'église et d'assurer le culte pour les personnes qui ne peuvent pas aller dehors.
Merci beaucoup pour cette rencontre, Père Jean-Yves Ducournau. Vous êtes l'auteur, je le redis, de cet ouvrage, La charité inventive, paru chez EDB, mais il y en a 8 autres avant.
Oui, c'est ça.
Qui racontent votre parcours, qui nous immergent dans différentes réalités spirituelles. Voilà, merci beaucoup pour cette rencontre. Vous êtes, je le rappelle, aumônier militaire et en particulier envoyé auprès des jeunes qui se forment pour devenir sous-off.
C'est ça.
À Saint-Mexant-l'École. Au revoir.
Au revoir.
Présence, présence.
De passage à Lourdes.
Chaque semaine, dans VIP, l'invité d'Emmanuel Dancourt vous dévoile le visage inattendu de sa personnalité.
VIP, tous les mardis à 10h et le samedi 17h.
Oh, les hommes. Tu reçois en héritage le trône de David, mon père, que toutes les nations